La rançon du succès. Nous sommes fort nombreux et nous en sommes fort contents de nous retrouver ce soir autour de Denis Moreau. Surtout pour lui, ce n'est pas la première fois qu'il vient. Nous avons eu beaucoup de mal à l'avoir. C'est bien. Combien de fois as-tu fait cette présentation depuis l'apparition du livre? Tu n'as pas compté? Nous sommes les 250e à peu près. On passe plus de temps à lire les comptes rendus qui paraissent dans la presse sur le livre qu'à lire le livre lui-même. Tellement il y en a. Très heureux d'avoir l'occasion de vous permettre à Denis Moreau de parler de ce qu'il a écrit, de son dernier livre, Résurrection, qui est paru au Seuil
au mois de mars.
Au mois de mars dernier. Donc c'est encore une parution récente. Denis Moreau, et tout le monde le sait, mais je le dis quand même pour les quelques rares qui l'ignoreraient, est professeur ici à l'Université de Nantes. Il est spécialisé dans la philosophie classique, ce qu'on appelle la philosophie classique, Malebranche, Spinoza, Descartes surtout, et il a publié autour de ses auteurs de nombreux ouvrages, des présentations de textes, des analyses. Et il a une autre veine. Une veine de philosophie religieuse. Il a même un cours dans le domaine d'initiation à la philosophie religieuse qui lui donne l'occasion de découvrir parfois quelques perles fort amusantes dans l'ignorance qui domine autour de nous concernant la culture religieuse. Et je crois qu'il applique volontiers ce texte. Je prends pour ne pas dire de bêtises, ce texte de 1 aux Corinthiens 9,16, annoncer l'évangile est une nécessité qui s'impose à moi, c'est une charge qui m'est confiée. Car effectivement, dans le domaine de la philosophie religieuse, il y a toute une série d'ouvrages qu'il a fait paraître, les voies du salut, mort ou état victoire, et ce dernier s'inscrit dans cette série de livres concernant une réflexion sur ce qu'est sa foi chrétienne qu'il ose affirmer. C'est assez rare qu'un universitaire ose dire quelle est la foi dont il parle, qu'il ose dire... Non, je me trompe.
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a jamais causé de problème. J'ai jamais caché ma foi. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je suis spécialement content parce qu'il y a quelques étudiants qui sont là. Alors ça, c'est sympa, c'est pas souvent. Voilà, et donc les étudiants, bah, je rentre pas dans l'amphi en criant que je suis chrétien. Vous avez pu voir, voilà. Mais d'un autre côté, il suffit de traîner sur Internet pour le savoir, donc c'est pas très compliqué. Et j'ai jamais caché ma foi. Alors, je sais bien, il y a des gens qui disent qu'en France, les chrétiens sont persécutés, malmenés, etc. Ça n'a jamais été mon cas. Les collègues ont toujours été charmants avec moi. Des fois, ils me moquent un peu de moi à la cantine, quoi, mais c'est normal, ça, il n'y a rien de plus. Donc, non, ça ne demande aucun courage. Et je ne sais pas si c'est si rare que ça. En fait.
C'est quand même un style que nous sommes d'une génération très différente, que je n'aurais jamais osé avoir.
Oui, mais toi, tu es vieux.
Absolument. Oui, ça, oui. Et y a un clivage maintenant, il y a manifestement un changement de position. Je n'aurais jamais osé de dire de la même manière quelles étaient mes convictions personnelles dans le cadre... de le faire connaître
ou
écrire un bouquin... qui soit écrire à la fois des bouquins savants comme tu le fais et des bouquins engagés dans l'explicitation de ta foi.
Oui, mais c'est parce que t'es vieux, et que le monde a changé.
Il fut un temps, nous étions amis.
Non, il est très bien conservé, mais il est vieux en fait. Le monde a changé, c'est-à-dire quand tu avais 30 ou 40 ans, il y avait une forme d'évidence sociologique du christianisme en France qui était de loin la religion dominante. Il y avait 90% des gens qui se disaient catholiques, 90% des enfants qui étaient baptisés. Vous savez, on a assisté, enfin, à l'échelle de ma vie, j'ai assisté au crack du catholicisme français. Hein. Guillaume Cuchet était invité ici il n'y a pas très longtemps, donc vous savez qu'on est on était avant le confinement et les histoires de Covid et de pédocriminalité dans l'église à 2,2% de pratiquants. Il semblerait que ça ait encore bien dévissé, qu'on soit passé très nettement sous la barre des 2%. La courbe des baptêmes, ça s'effondre également. Donc il y a une forme d'urgence aujourd'hui. Je sais que le modèle dans ta génération, enfin moi j'ai grandi, j'ai été catéchisé dans les années 1970, c'était le modèle levain dans la pâte, hein, cette idée, on se faisait pas voir. jarre et on faisait fermenter de l'intérieur. Et c'était très beau. Hein. Moi, j'ai rien contre ça. Mais là, aujourd'hui, si on se fait pas voir, on va être oublié. Donc, il faut quand même de temps en temps rappeler que nous existons. Nous, j'entends nous chrétiens, rappeler que nous existons. Sinon, c'est la disparition. Et donc, je pense que ça a un petit peu changé. Alors, moi, c'est aussi pour ça que je me suis mis. Vous savez, Jean-Michel l'a rappelé, j'ai commencé une carrière d'universitaire tranquille en écrivant des articles très savants sur Descartes que personne ne lisait. Enfin, des vrais articles. Mais je crache pas dans la soupe universitaire. Hein, ça m'a nourri et ça me nourrit encore. Mais il y a un moment de ma vie où je me suis dit, bon voilà, d'une part, ce qui est le cœur de ma vie, c'est-à-dire le christianisme, va quand même très mal. Enfin, en France, hein, il y a d'autres régions du monde où ça marche bien, mais en France, ça s'effondre. D'autre part, je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air prétentieux, j'ai reçu un petit talent intellectuel. Enfin, avec les moyens du bord, je fais de la philosophie, quoi. Donc, est-ce que je peux rester là, les bras ballants, à rien faire pendant que les belles idées dans lesquelles je crois sont en train de se casser la figure? Je me suis dit non, fallait tenter quelque chose. Donc, voilà, avec les moyens du bord, je me suis mis à écrire le genre de livre dont Jean-Michel a parlé tout à l'heure.
Alors pourquoi les résurrections après les voies du salut? Quelle différence? Quelle évolution? Quel changement?
Alors, il y en a eu 5 ou 6. Hein, les voies du salut, c'est le premier. Alors là, j'étais en train de tomber mes oripeaux d'universitaire. C'est pas si facile que ça, hein, de se quitter les habitudes d'universitaire. Donc c'est 5 notes de bas de page dans toutes les langues de la Terre à chaque page, des tas de mots compliqués, etc. pour se mettre à écrire des choses plus... Je ne veux pas dire moins compliqué, mais plus lisible en tout cas. Donc il y a eu ce livre qui s'appelle Les Voies du Salut, mais qui est mal foutu parce que voilà, je n'avais pas fini ma mue. Donc il y a encore plein de notes de bas de page, c'est pas très lisible. Et puis donc le déclencheur, ça a été. Alors c'est peut-être un livre que certains d'entre vous ont lu, parce que c'est celui que j'ai écrit qui a le mieux marché, qui s'appelle Comment peut-on être catholique. J'ai écrit ça il y a 4 ou 5 ans. Alors. C'est un livre, j'avais écrit ça avec l'idée donc, puisque aujourd'hui, pour la plupart des gens, et c'est légitime, hein, le fait d'être chrétien est considéré comme étant bizarre, je me suis dit, je vais m'expliquer, donc je me suis expliqué, et j'ai écrit ça, j'écris lentement, j'ai commencé à l'écrire, c'est juste après la manif pour tous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance était un peu tendue. À ce moment-là, il y avait de la crispation, bon, et je me suis dit, on va essayer de faire un livre détendu, donc ce n'est pas un recueil d'histoires drôles, mais voilà, de temps en temps il y a des blagues. Je me suis dit on va essayer de parler des choses importantes de la religion en ne s'interdisant pas de sourire de temps en temps. Alors ça a un peu marché ça, et j'ai reçu une lettre d'un lecteur. Enfin, dans mes livres il y a toujours une adresse mail pour que les lecteurs puissent m'écrire. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait c'est bien gentil votre affaire, mais vous ne prenez pas assez en compte la dimension tragique de l'existence. Et alors ça m'a frappé, ça m'a trotté dans la tête. Il se trouve que par ailleurs, alors je ne vais pas rentrer dans des détails biographiques, mais c'était quelques années un peu difficiles dans ma vie, un certain nombre de coups durs qui me sont tombés dessus, c'était des moments pas très drôles, et donc ça m'a aussi rendu plus sensible à la dimension tragique de la vie. Je me suis dit, voilà... finalement, c'est quand même une vraie question, ça, quand on est victime d'un effondrement existentiel, enfin, quand on prend un vrai gros coup dur de la vie, comment est-ce qu'on se relève? Comment est-ce qu'on se relève? Et j'ai voulu présenter ce que j'ai compris de la façon chrétienne d'essayer. Alors, c'est surtout pas un livre qui donne la recette miracle pour traverser en 5 minutes et sans douleur aucune les épreuves de la vie. Hein. Si le christianisme, c'était ça, la recette miracle pour traverser en 5 minutes toutes les épreuves de la vie, je pense que tout le monde se convertirait sur le champ. Ça serait donc ça, non, ce n'est pas ça. Et puis si ça existait, la recette miracle pour traverser en 5 minutes les épreuves terribles de la vie, c'est pareil, ça se saurait, donc ça n'existe pas. Mais je crois qu'il y a une façon chrétienne, alors que j'ai articulé autour du concept de résurrection, d'essayer de se relever quand on est à terre, ou de se réveiller quand on est assommé. Et donc c'est ça que j'ai essayé d'étudier dans ce livre. Donc c'est un livre, c'est pas un livre très drôle, hein, par exemple. C'est un livre qui parle de choses pas très drôles. Après, je commence à avoir un certain âge. Alors il y a quelques jeunes, mais la plupart des gens ici ont un peu vécu. Je ne sais pas si... je reçois pas mal de courriers des lecteurs à propos de ce livre-là, de gens qui, de façon très... touchante pour moi, me confie les difficultés qu'ils ont eues dans leur vie. Moi, je ne suis pas habitué à ça. C'est pas mon métier. Hein. Je vois un ou deux prêtres dans la salle. Je pense que ça fait un peu partie de leur quotidien d'entendre les gens leur parler de leurs difficultés. Moi, j'étais pas habitué. Je me rends compte quand même que, enfin, j'en suis à me demander si des vies sans drame, ça existe. Alors, peut-être parmi vous, alors, il y en a qui ont connu des vies sans drame. Bah, heureux êtes-vous. Voilà. Savourez votre bonheur. Je crois que quand même pour la plupart d'entre nous, l'existence, elle est couturée de choses assez terribles. Hein, et que, voilà, une des grandes questions qui se posent à nous, c'est comment on affronte ça et comment on essaie de s'en tirer quand ça va vraiment pas bien, quoi. Et de ce point de vue-là, il me semble alors que le christianisme offre un kit de survie assez performant, on va dire. Voilà.
Il y a effectivement, j'avais été tenté à un moment de m'en tenir aux différentes recettes de ce kit de survie, parce qu'elles tissent tout le livre. Mais à la réflexion, je me suis dit qu'il y avait bien plus que le kit de survie. Il y avait en même temps tout un traité théologique ou philosophique concernant la résurrection. Et à travers sept principes que tu présentes dans le livre et qui reviendront régulièrement pour analyser les chutes et les difficultés de l'existence, tu dis à la fois, à travers ces principes, ce qu'est ta foi, d'une part, et comment cet éclairage de la foi peut apporter un moyen de survie. Alors j'aimerais bien qu'on reprenne quelques-uns de ces principes. Mais que tu dises plus que tu ne le fais dans les principes même, quel est le contenu de ta foi concernant la résurrection, et dans un deuxième temps, en quoi ce contenu de la foi permet d'éclairer ces chutes, ces difficultés, ces résurrections à faire. Et notamment, il y a le principe même, le fait que la mort n'est pas le terme. C'était le premier des principes. Le Christ est ressuscité, c'est le centre de notre foi, et tu dis que c'est une vérité qui s'oublie à la fois dans le monde chrétien et qui est incompréhensible dans le monde, encore plus incompréhensible dans le monde non chrétien. Qu'est-ce qui fait le centre de cette affirmation que la mort n'est pas tout, et en quoi cette affirmation-là est un éclairage pour les chutes et les...
D'accord. Là, ça fait une grosse question. Hein.
Oui,
Ouais.
il n'y en a que
Alors,
sept comme ça.
comme
Il n'y
ça.
en a que sept comme
On
ça.
va reprendre, peut-être pour essayer de vous expliquer, je reprends la structure du livre. Bon, je suis prof à la fac, donc c'est assez. On pourrait dire il y a le cours magistral et les travaux pratiques. Hein. Le cours magistral, il y a 70 ou 80 pages théoriques sur ce que c'est que croire en la résurrection, ce que ça signifie et ce que ça fait. On va dire. Et puis après, il y a les travaux pratiques, et donc j'ai essayé d'appliquer ça à quatre cas où j'ai vu des procédures résurrectionnelles à l'œuvre dès cette vie, hein, qui sont le deuil, des épisodes dépressifs profonds, des situations de pardon données et reçues après des graves fautes, et des crises de couple, des crises amoureuses. Voilà. Alors, on va régler tout de suite le problème de ces quatre cas. Ça se présente donc. C'est l'histoire de gens qui, traversant ces épisodes dramatiques de la vie, réussissent à s'en sortir. Voilà. Ce sont des récits écrits à la première personne du singulier. Il y a quelqu'un qui dit « je » et qui raconte un deuil, la traversée d'un épisode dépressif sévère, etc. Alors, j'ai écrit au début du livre que je ne souhaitais pas en dire plus sur l'aspect éventuellement autobiographique de tout ça. Donc, est-ce que ça m'est vraiment arrivé? Est-ce que c'est arrivé à certains de mes proches, et puis j'ai recueilli leurs témoignages et j'ai composé à partir de ça? Est-ce que j'ai tout inventé? Est-ce que c'est un mélange de... Je ne souhaite pas en dire plus. Voilà, c'est ma liberté d'auteur de laisser un voile d'ignorance là-dessus, tout comme c'est la liberté des lecteurs d'y voir ce qu'ils ont envie d'y voir. Et d'ailleurs, depuis que le livre est paru, tout le monde y voit des récits autobiographiques. Donc ça, de ce point de vue-là, l'artifice littéraire n'a, je ne sais pas si c'est qu'il a trop bien ou pas fonctionné. Donc voilà, pour la structure générale du livre.
Et il y a une conclusion
Et il y a une conclusion
qui tire quand même des enseignements
qui tire des
importants.
enseignements. Voilà. Oui. Alors après, l'idée, si vous voulez, c'est que quand on croit quelque chose, il y a deux façons de se rapporter à cette croyance. Vous pouvez vous demander est-ce que c'est vrai? Et vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça change à ma vie? Alors, on va prendre une croyance non religieuse. Je parlais de la résurrection juste après, mais parce que pour dédramatiser un peu les choses, parce que la religion, tout de suite, c'est compliqué. On va prendre une croyance super simple, une croyance météorologique. Je dis, je crois qu'il va faire beau demain. Bon, première question, Est-ce que c'est vrai? Alors ça, je le saurai demain matin. Comme on dit chez les philosophes, c'est une croyance en attente de vérification. Et puis, deuxième question, qu'est-ce que ça change à ma vie? Alors, ça change des choses à ma vie. Par exemple, moi, j'ai l'humeur un peu sensible à la météo. Donc, si je crois qu'il va faire beau demain, je vais me coucher de bonne humeur. Puis, demain matin, me lever pareil. Si je crois qu'il va faire beau demain, demain, en partant de chez moi, je ne prendrai pas mon parapluie. Donc, vous voyez, que croire quelque chose, ça change la vie. Toutes les croyances. Alors, après, il y a des croyances qui ont des effets existentiels très faibles, comme la croyance météorologique, ça ne bouleverse pas ma vie en profondeur. Et puis, il y a des croyances qui ont des effets existentiels très forts. Je ne sais pas si je crois que demain, c'est la fin du monde, ça va avoir forcément des effets sur ma façon de me comporter. Donc, il y a des gens qui croient que le Christ est ressuscité. On les appelle les chrétiens, mais alors... Il y a des sondages, hein. Il y a plus de 30 et 40% des gens qui se considèrent comme chrétiens qui pensent que le Christ n'est pas ressuscité. Donc c'est important de le savoir. Et je n'ai pas envie de dire que ce sont des mauvais chrétiens. Ce sont des chrétiens qui ont une difficulté avec un article de foi qui est sans doute assez important. Mais moi aussi, j'ai mes difficultés avec d'autres articles de foi. Donc, je sais pas, il y a un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps d'un monsieur qui s'appelle Guillaume de Fonclar. Ça s'appelle Une foi inaccomplie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, c'est un très beau livre, un monsieur vraiment animé d'une foi profonde. Mais il dit, j'arrive pas à croire à la résurrection. Puis alors, ça a l'air de lui gâcher la vie. Il raconte qu'il passe des nuits blanches à essayer d'y croire et à pas y arriver. Donc, voilà. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est en lutte un peu sur... point de vue de sa foi, mais bon, on va dire normalement dans les choses qui sont importantes dans la foi chrétienne, il y a croire en la résurrection de Jésus. Alors après, bah, c'est comme pour la météo tout à l'heure, deux questions. Est-ce que c'est vrai? J'ai prudemment dégagé le sujet en 5 pages. N'ayant rien à ajouter à... Alors, moi, je pense que c'est vrai. Et si je le pense, c'est que j'ai des raisons. On ne croit pas l'incroyable, d'accord ? Ou on ne croit pas des choses absurdes. Je ne sais pas, je peux vous donner un énoncé absurde. Jean-Michel Vienne est Dieu Tout-Puissant, voilà, c'est absurde. Vous n'avez pas dit, ah oui, c'est complètement débile, ok, je te crois. Donc non, si vous croyez quelque chose, c'est que vous avez des bonnes raisons de le croire, par définition. Donc moi, je pense que j'ai des raisons qui rendent crédible l'événement de la résurrection de Jésus. Alors, si vous voulez lire, c'est un lieu classique, hein, de l'apologétique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a eu des centaines de livres de gens qui voulaient démontrer que Jésus était... Alors, ça ne se démontre pas. Ça s'argumente, mais ça ne se démontre pas. Tout comme tout contenu de foi. Hein. Sinon, ce n'est plus de la foi, c'est de la science. Mais... donc, il y a des arguments en faveur de la résurrection de Jésus. Un livre qui synthétise ça très bien et de façon très pédagogique, c'est le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, L'Évangile selon Pilate. Je ne sais pas si vous avez sans doute lu ça. Alors, il y a la première partie, la autobiographie de Jésus par lui-même. Ça, c'est... Je ne trouve pas ça très réussi, mais la seconde partie, donc Pilate, face à la rumeur de la résurrection qui commence à se répandre, puis cherchant toutes les bonnes raisons pour dire bah non, c'est pas arrivé, c'est pas possible cette affaire-là, et puis se heurtant à des contre-propositions qui l'amènent à croire que quelque chose s'est réellement passé. Donc ça met assez bien en compte, en scène, les justifications de la foi en la réalité historique de la résurrection de Jésus. Après, je ne peux pas vous le démontrer, il y a un moment où il faut. C'est une dimension de pari, hein. Faut faire le saut de la foi. Donc j'ai des arguments pour dire que c'est crédible, mais je n'ai pas de démonstration pour vous dire que c'est indiscutable. Ça, c'est... Donc, est-ce que c'est vrai? Première question. Et puis la deuxième question, alors que j'ai essayé de déployer dans le livre, c'est si j'y crois, qu'est-ce que ça change à ma vie? Si j'y crois, qu'est-ce que ça change à ma vie? Et ça, vous voyez, à la différence de la croyance météorologique, qui est une croyance, on va dire, à... implication existentielle faible, ça ne change pas très en profondeur ma vie. Si je crois que Jésus est ressuscité, nous montrant par là que la mort a été vaincue, là, je pense que ça a ou ça peut avoir des retentissements existentiels assez forts, notamment alors dans ce dont parle ce livre, c'est-à-dire les situations tragiques de nos vies. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement, moi, parce que je ne suis pas très, très savant. Vous lisez la... Non, je ne suis pas théologien. Je t'ai dit que c'était de la théologie. Non, je ne suis pas théologien. Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie, des bons théologiens, mais quand j'en ai rencontré, on a envie de dire chapeau, hein, parce qu'il faut faire de l'hébreu, du grec, du latin, de l'histoire, de la socio, de la linguistique, etc. Donc... un vrai bon théologien, c'est beau intellectuellement. Moi, je suis juste philosophe, donc c'est beaucoup plus facile. Et un peu sur le tard, j'ai découvert que ce que dans nos Bibles en français, on traduit par ressusciter, en fait, c'est deux verbes grecs différents qui sont traduits par un seul mot en français. Donc ça cache un peu. Alors c'est assez touchant de voir que les gens qui ont écrit les évangiles, au lieu de forger un néologisme, quand même la résurrection de Jésus, si jamais c'est arrivé, c'est pas rien. C'est quelque chose de très étonnant. Et donc on aurait pu s'attendre à un mot nouveau pour un événement à tous égards inouï. Et ben non, ils ont pris deux mots du langage ordinaire. Donc il y a un verbe grec, anistanai, qui veut dire lever, se relever. Et puis un verbe grec, egeren, qui veut dire réveiller, se réveiller. Et donc là, alors l'idée, c'est Jésus tombé à terre autant qu'on pouvait l'être, puisqu'il était mort, s'est relevé. Jésus engourdi autant qu'on pouvait l'être, puisqu'il était mort, s'est relevé. Si j'ai foi en ça, d'accord, ça veut dire que j'ai foi en la présence dans la réalité d'une puissance qui peut nous aider à nous relever quand nous sommes à terre et à nous réveiller quand nous sommes engourdis. Alors nous relever quand nous sommes à terre, bah, c'est les expériences de chute existentielle qu'on fait tous, hein, quand on se dit là ça y est, je suis par terre, c'est terminé, je ne me relèverai pas. Bon, avoir foi à la résurrection du Christ, c'est croire que quelque chose est à l'œuvre dans la réalité qui peut nous aider à nous relever. Il y a les expériences d'engourdissement, d'atonie existentielle, hein, on peut penser à la dépression. C'est des expériences où on se dit ben voilà, je ne me réveillerai jamais, je suis complètement assoupi, vidé de toute énergie, etc. Avoir foi à la résurrection du Christ, c'est croire que dans ces situations-là, une puissance peut être à l'œuvre qui nous aide à nous réveiller. Voilà, et donc c'est à peu près c'est ça que le livre étudie au travers de... Alors j'ai essayé, donc dans la première partie théorique, alors, on rentre dans les principes ou je ne sais pas... tu veux poser des questions?
Comme tu veux. Non, mais bon, j'ai pas besoin de poser des questions, tu veux.
Donc non, il y a une première partie un peu théorique où j'ai dégagé... sept principes. Donc j'ai essayé de faire travailler un petit peu plus que ce que je viens de faire là l'idée de résurrection, en demandant donc qu'est-ce que ça signifie croire que Jésus est ressuscité, et si j'y crois, qu'est-ce que ça change dans ma vie. Et je pense que ça change pas mal de choses. On va prendre quelques exemples tout à l'heure. Et puis il y a la deuxième partie où j'applique ça à des cas particuliers. Alors vous voyez, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme principe. On va en prendre deux.
J'ai bien aimé, par exemple, celui où le quatrième, celui où tu parles du Christ qui subit la résurrection. Il n'est pas acteur de sa propre résurrection.
Voilà.
Et à l'imitation de cela, le self-made man, qui à l'inverse souhaite se ressusciter lui-même, ce qui est très répandu dans la civilisation contemporaine.
Voilà. Ça, c'est un exemple de truc que moi, chrétien, j'apprends en méditant sur les récits de résurrection. D'accord. Alors, on va évacuer la théologie trinitaire. Vous savez, la théologie trinitaire... On n'y comprend jamais rien, donc on va laisser tomber. Dès qu'on parle, on dit des hérésies, donc je ne vais pas faire de théologie trinitaire. Si on prend l'énoncé biblique standard, c'est quand même Dieu, le Père, a ressuscité Jésus. Alors après, comme évidemment, on a élaboré toute une dogmatique disant que Jésus était Dieu, on finit par dire qu'il se ressuscite lui-même, mais on va laisser tomber cet aspect-là des choses. L'idée, c'est qu'on est ressuscité, enfin Jésus est ressuscité au passif et ne se ressuscite pas lui-même. Voilà. Vous savez, quand il est en croix, si vous lisez les récits des évangiles, hein, c'est un défi qui lui est lancé, sauve-toi toi-même, et il ne répond pas, il ne le fait pas, il meurt. Et...
Déjà dans les tentations, au début de l'évangile. Ouais.
Et là, c'est la puissance de Dieu qui le ressuscite, donc il est ressuscité au passif. Et ça me semble extrêmement important. Donc après, voilà, qu'est-ce que j'en tire pour cette vie présente? Dans nos vies, parfois, il y a des événements dramatiques qui s'invitent, des effondrements existentiels. Et là, il y a deux modèles. Il y a le modèle « sauve-toi toi-même ». D'accord ? On pourrait appeler ça le modèle auto-résurrectionnel, si on voulait jargonner. Donc, se ressusciter ou sortir des drames de nos vies par nos propres forces. Alors, c'est ce que l'époque nous demande. Hein. Nous sommes soumis en permanence à des injonctions épuisantes, Allez, secoue-toi, t'es endeuillé, bah, prends 3 jours de RTT, puis t'as intérêt à revenir que ça aille mieux. Enfin, et donc, c'est ça. Ce que nous demande l'époque, c'est de nous sauver nous-mêmes par nos propres forces. Et c'est pas pour rien si le burn-out s'annonce comme la pathologie du siècle. Hein. Et on va en crever. C'est épuisant, puis on n'y arrive pas, c'est trop dur. Donc, premier modèle, et alors c'est aussi, vous savez, c'était le modèle des grandes sagesses antiques. Alors, ça, moi, j'en pose beaucoup de bien, mais elles sont discutables, évidemment. Le stoïcisme ou l'épicurisme, hein, c'est aussi se sauver des coups durs de la vie par ses propres forces, quoi. Donc, ça, c'est un modèle. Bon, tant mieux. Pour ceux d'entre vous qui sont capables de l'endosser, moi je n'y arrive pas. Je ne suis pas assez fort pour ça. Alors, si Nietzsche était là, il dirait, bah oui, les chrétiens, c'est des faibles, vous êtes en train de le dire. Et je dirais à Nietzsche, bah oui, mais sans doute que toi aussi. Voilà, je ne pense pas qu'il n'y ait que les chrétiens qui soient faibles. Il y a quand même, pour nous tous, des situations dans la vie où on se retrouve en position de faiblesse. Donc, premier modèle, sauve-toi toi-même. Deuxième modèle, alors, si on veut continuer à jargonner, on va appeler ça hétéro-résurrectionnel, d'accord ? C'est-à-dire, on est ressuscité par d'autres choses. Et donc, la sagesse chrétienne dans les situations de détresse, c'est pas de dire sauve-toi toi-même, c'est de dire sauve-moi, je péris. C'est d'appeler à l'aide, en fait. Et ça, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire. Alors, c'est exactement une des préconisations qu'on peut tirer d'une réflexion sur ce que c'est qui est ressuscité à la façon des chrétiens. Alors, appeler à l'aide, pour prendre un exemple, donc par exemple, là, il y a un chapitre sur les crises conjugales où j'ai recueilli le témoignage de 3 couples qui ont connu des très très graves crises conjugales, qui les ont menés pour certains à se séparer pour un certain temps, et en tout cas au bord de la séparation, et qui s'en sont sortis. Alors, déjà, ils ont de la chance, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Mais un truc qui m'a frappé, c'est que les 3 couples se sont fait aider. Ils ont pas cherché à s'en sortir tout seuls. Et je crois que c'est ça. Enfin, c'est pareil, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de vie exempte de drame. Je suis pas sûr que... Moi, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans que je suis marié. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vie de couple exempte de grandes crises. Hein. Pareil, quand on parle un peu avec les gens, ceux d'entre vous qui sont mariés, qui vivaient depuis 50 années le parfait amour sans aucun nuage, tant mieux pour vous, réjouissez-vous, vous avez de la chance. Mais quand on commence à discuter un peu avec les gens qui ont vécu un certain temps en couple, on se rend compte qu'il y a presque toujours eu des périodes compliquées, voire très compliquées, quoi. Et là, c'est ce que disent les psychologues, hein, quand ça commence à dysfonctionner, les gens sont pris dans ce... qu'on appelle des schémas, des patterns, quoi, des espèces de structures mortifères qui se répètent et dont ils n'arrivent pas à se sortir tout seuls. Et pour s'en dépêtrer, il faut se faire aider. Il faut avoir la sagesse d'appeler. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche automatiquement. D'ailleurs, il y a des cas où ça ne marche pas. Mais appeler à l'aide, c'est une forme de sagesse. Donc, voilà un des principes. On ne se ressuscite pas soi-même. On est ressuscité par l'aide de Dieu, des autres, ou l'aide de Dieu se déployant par l'intermédiaire de celle des autres, hein, puisqu'il n'est pas interdit aussi de considérer que l'aide de Dieu passe par des canaux assez horizontaux.
J'aurais au moins un second, peut-être, il y en a encore le temps. Moi, j'aurais bien aimé que tu reviennes sur le 5. Croire que le Christ est ressuscité, ils sont tous repris à la fin du livre. Hein. Croire que le Christ est ressuscité, ce n'est pas chercher le négatif et la souffrance pour eux-mêmes, mais lorsqu'on les rencontre, c'est juger que si profond soit le sentiment de déréliction, nous sommes parvenus, si indépassables que nous semblent les catastrophes qui nous frappent, nous ne devons jamais considérer que tout est définitivement perdu.
Oui, donc bon, c'est assez clair. Hein. Alors, ça, c'est des choses qu'on apprend, enfin, une chose qu'on apprend en méditant le récit de la résurrection. Je commence par la fin de ce principe. Donc, c'est je pense le vendredi saint à 15h. Je pense que tout le monde a dû se dire, c'est foutu. Bon, ça devait être ça, la tonalité générale des disciples au pied de la croix. Celui en qui ils avaient placé tous leurs espoirs était là, mort et tout. Donc, ils ont dû se dire, c'est foutu. Et ça nous arrive dans nos vies de nous dire, c'est foutu. Enfin, moi, ça m'est arrivé de temps en temps. Non, c'était pas foutu. Il y a une issue, alors je pense totalement imprévisible, le vendredi 15h, qui s'est dégagée le dimanche matin. Quoi exactement, ça reste un peu compliqué. Mais dans la nuit, apparemment sans issue. Alors, vous savez, c'est. Je
présume qu'il y a un certain nombre de gens catholiques ou catho-compatibles dans la salle. C'est le récit de la traversée de la mer Rouge par les Hébreux. On lit ça quand à la messe? Oui, veillée pascale, ce n'est pas par hasard si les gens qui ont composé la liturgie l'ont mis là, d'accord? C'est les Hébreux. Alors c'est comme ça que les pères de l'Église lisaient ce récit au sens figuré. Les Hébreux, coursés par les Égyptiens, vont s'écraser, enfin pensent aller s'écraser dans le mur liquide devant eux. Donc ils disent, c'est foutu, quoi, c'est écrasé. C'est quand le mur, hein, quand Jean-Paul Sartre, philosophe athée, veut écrire une nouvelle sur la mort, il appelle ça le mur. Pour un athée. J'ai une collègue spécialiste de philosophie allemande dans le fond de la salle. Je pense que ça serait assez bien aussi ce que peut raconter le philosophe Heidegger sur la mort. Hein. C'est ce contre quoi on vient taper et qui achève notre vie. Exode, la mer Rouge s'ouvre, les Hébreux traversent, lecture figurée. Dans le mur de la mort ou dans le mur de l'insensé devant nous, finit par s'ouvrir un passage. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est croire en la résurrection? C'est croire que, effectivement, aussi sans issue que nous paraissent les situations dans lesquelles nous nous trouvons, alors ça peut être des sans issues parce qu'on voit pas de sens, ça peut être des sans issues relationnelles, ça peut être quand on est fâché à mort contre quelqu'un, on dit c'est mort, voilà, ça c'est terminé. Il y a des issues possibles qui peuvent finir par s'ouvrir. Alors, reste à voir comment. Donc ça, c'était sur la fin du principe. Et puis alors, il y a la question, ça c'est une question qui est vraiment délicate. Tu peux me rappeler mon principe? Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai... tu ne l'as pas appris par cœur.
Croire que le Christ est ressuscité, ce n'est pas chercher le négatif et la souffrance pour eux-mêmes. Mais lorsqu'on les rencontre, c'est juger que si profond...
Oui, c'est bon. Oui, donc ça c'est une question. Bon, puisque en fait c'est un livre qui parle d'expériences de souffrance, de douleur grave, de négativité, comme disent les philosophes. Et donc c'est la question de savoir comment on intègre ça dans nos vies. Et ça c'est une question compliquée. C'est une question compliquée, notamment pour le christianisme, parce que vous savez qu'il y a quand même eu, alors je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit très présent dans les évangiles ou le Nouveau Testament, mais on peut dire qu'il y a quand même eu une dérive doloriste dans l'histoire du christianisme, un moment où on en est venu, alors on peut voir penser au livre de Jean de Lumeau par exemple, à une forme d'exaltation de la souffrance considérée comme rédemptrice. C'est un sujet, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que, vous aurez compris, j'ai une foi assez pragmatique. Donc, moi, si des gens qui souffrent, ça les aide de penser que leur souffrance est rédemptrice, je n'ai pas envie de leur dire arrêtez. Si ça leur fait du bien, Après, c'est donc la question, alors, c'est ce qu'on appelle en philosophie, pour les philosophes, cette place du négatif, c'est un peu la question de la dialectique en philosophie. Pardon les collègues, qu'est-ce que c'est la dialectique? En très gros, c'est dire on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut souffrir pour être beau, enfin ce genre de choses-là. Donc cette idée que pour obtenir un résultat souhaitable, il est nécessaire d'en passer par des mauvais moments. Bon, alors ça va pour les petites souffrances. D'accord, je suis en train de préparer une course à pied, là. Alors, je me fais un peu mal à l'entraînement pour essayer de faire une performance dans 15 jours. Ça va. Après, quand c'est un gros pet existentiel, une vraie grosse souffrance, là, à mes yeux, la dialectique se brise. C'est-à-dire, je suis désolé, là, on est obligé d'aller dans des régions un peu extrêmes pour faire sentir ça, mais moi je ne vais pas aller raconter à quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance que c'était un mal nécessaire pour qu'il accède à un bien supérieur. Je lui dis c'est un mal. Voilà. Bon, c'est un point, c'est tout. Donc, grosse méfiance chez moi vis-à-vis de la dialectique. Cette idée de la nécessité du négatif pour accéder à des états supérieurs. Après, ça n'empêche pas que la souffrance, elle s'invite dans nos vies. Et ça, c'est comme ça. Et donc, la question, qu'est-ce que j'en fais, se pose quand même. Et non pas, vous voyez, que ça m'arrive, ça a du sens, c'était nécessaire pour que j'obtienne quelque chose de mieux, ce qui est une vision un peu facile peut-être aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Mais bon, c'est là, qu'est-ce que j'en fais ? Les Américains ont eu une expression pour ça, ils disent à partir d'un jus de citron épouvantablement acide, comment est-ce que je me débrouille pour confectionner une limonade correcte ? Voilà. Et donc, effectivement, quand la souffrance s'invite, comment est-ce que je me débrouille pour confectionner une limonade correcte ?
Et si je peux te pousser 30 secondes dans un arrière-plan théologique, il y a aussi toute une critique dans ce chapitre-là sur la théorie de la satisfaction, c'est-à-dire selon laquelle le Christ aurait souffert pour se contenter son Père, et tu pourfends cette conception.
Oui, alors c'est...
Parce que c'est quand même une conception qui a encore assez court dans les milieux catholiques.
Oui.
Alors, enfin, j'ai bien aimé ce passage-là, mais peut-être est-il trop technique.
Non. Ce qui est technique, c'est la théorie de la satisfaction. Donc ça, vous savez, c'est... Parce qu'une fois qu'on a dit que Jésus est venu sauver les hommes, il peut rester à Maurice, il ne fait pas beaucoup de bruit, non, c'est pas... Il est sage, hein, c'est... Ouais, c'est donc... D'accord, bon, bah, alors, au revoir. Qu'est-ce qu'on disait
La
satisfaction. Donc, c'est une fois qu'on a dit que Jésus est le sauveur des hommes, qu'il est venu apporter la rédemption, etc., il y a quand même, chez les philosophes, assez rapidement, il y a la question, oui, mais comment ça marche, qui s'est posée, la rédemption. Et donc, une des théories qui a eu un succès extraordinaire, c'est la théorie dite de la satisfaction qu'on doit... pour sa mise au point technique à Saint-Anselme de Canterbury, donc c'est il y a 1000 ans, hein, un peu moins, qui est, si on l'apprend techniquement...
Je crois qu'elle est encore cours actuellement dans pas mal d'esprit.
Oui, mais si on l'apprend techniquement, je pense quelque chose d'assez intéressant. Après, il y a une espèce de... Donc c'est l'idée que pour compenser une offense infinie faite à Dieu, il fallait une offrande infinie, et donc... Jésus, fils de Dieu. Mais il y a eu une espèce de dérive doloriste très rapidement, où il y a eu l'idée que pour compenser... une offense infinie faite à Dieu, il fallait lui offrir une souffrance infinie. Et donc, il fallait que le Fils de Dieu souffre en croix, etc. Et ça a quand même débouché sur des formes d'exaltation de la souffrance. Alors, tu me dis qu'elles ont encore cours, je ne sais pas. Oui.
Peut-être dans ma génération.
Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Je pense un peu moins dans la mienne quand même. Mais... Là, moi, c'est pareil, je suis très méfiant. Hein, je suis très méfiant vis-à-vis de ça. Donc, je pense que... Alors, ça, c'est un autre bouquin que j'ai écrit, c'était Les Voies du Salut, qu'il faut essayer de trouver d'autres schémas conceptuels. Si vous voulez, cette théorie de la satisfaction, je pense qu'elle était assez tolérable pour la mentalité médiévale où ces espèces d'échanges compensatoires... étaient sans doute pensables sans trop de scandale. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus audible, comme on dit, pour la plupart des gens. Alors vous allez me dire, la question, c'est pas de savoir si c'est audible ou pas, c'est de savoir si c'est vrai, mais c'est discutable.
Ça reprend du poil de la bête la notion du sacrifice, et qu'il fallait que le Christ se sacrifie auprès de son Père qui l'exigeait. Mais passons à des choses, si tu trouves que ce n'est plus...
Non, ça dépend ce qu'on entend par sacrifice. Sacrifice, c'est faire du sacré.
Oui.
Alors, quelque chose, mais c'est pas nécessairement douloureux, je veux dire.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Mais c'est.
Donc, donc ça c'est pas mon christianisme. L'exaltation de la douleur, c'est pas mon christianisme. Alors, mais ça c'est. Vous voyez. J'imagine quelqu'un qui me dit tiens, pourquoi tu es chrétien, alors je lui répondrais, vous savez, dans la vie on a quand même déjà plein d'enquiquinements, c'est compliqué, en plus moi je m'en rajoute un supplémentaire, je suis chrétien, donc voilà, ça me pourrit la vie, ça me complique l'existence, etc. On entend un peu de ça, hein, dans les gens qui exaltent la douleur, voire la recherche, ça moi je non.
Mais c'est pour ça que c'est une partie de ton livre que j'ai beaucoup aimé, peut-être parce que de ma génération, mais qui est, je crois, fort intéressante.
D'accord.
De ce point de vue-là.
Alors je pense que je sais pas si c'est générationnel. J'ai quand même l'impression que les gens, cette recherche de la souffrance conçue comme nécessairement rédemptrice, etc., c'est quelque chose dont les gens que je fréquente, en tout cas chez les chrétiens, sont un peu sortis.
J'espère. Il y a une phrase que j'aimerais bien te redire et que éventuellement tu la commandes, et c'est en lien avec ce dont on parlait actuellement. Espérer, c'est croire que le présent a un sens qui ouvre l'avenir. page 264.
Oui, c'est dans la conclusion, ça, je vois bien. Oui, donc j'ai fait un petit topo sur l'espérance pour finir, enfin, dans la conclusion. Alors,
ça me semble très en lien avec la souffrance. Creux de la souffrance, qu'est-ce que c'est qu'espérer ?
Alors, je ne veux surtout pas confisquer l'espérance au profit des chrétiens, d'accord ? C'est-à-dire, je ne prétends pas que seuls les chrétiens peuvent espérer, et heureusement. Tout comme je ne prétends pas que seuls les chrétiens sortent du deuil, se relèvent de la dépression, peuvent échanger du pardon et sortir des crises amoureuses. Et heureusement, il y a d'autres. Deux choses. Je pense que pour tous ces trucs-là, et d'autres complications qui peuvent nous tomber dans l'existence, c'est quand même assez utile d'avoir un appareillage métaphysique un peu performant. Il y en a plusieurs sur le marché, il y en a des très bien, le stoïcisme c'est très bien, Nietzsche c'est très bien, le christianisme c'est très bien, mais je suis quand même assez frappé quand je parle notamment avec des jeunes par l'espèce de, chez pas mal d'entre eux, pas chez tous, de disparition de ces grands appareils idéologiques pourvoyeurs de sens et qui, notamment dans les moments tragiques de nos vies, viennent nous aider à nous en sortir. Alors après, évidemment, maintenant, il y a d'autres choses. Il y a le développement personnel, comment vous dire ça j'espère ne vexer personne.
Il y a des pages vengeresses.
Non, l'idée du développement personnel, c'est une très belle idée. C'est l'idée comment réussir sa vie en vivant aussi heureux que possible. C'est la question que se pose la philosophie depuis ses origines. Donc, moi, j'ai rien contre. Je suis un peu contre, quand je vais à la FNAC, au rayon développement personnel, ces livres de 60 pages en gros caractères avec du blanc partout, là, qui prétendent vous mettre sur le chemin. Ça, non. Alors, j'espère ne fâcher personne. C'est un petit peu comme l'homéopathie. C'est comme l'eau de Lourdes selon François Mauriac, c'est-à-dire si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal, on va dire. Et donc moi, le premier, quand j'ai un rhume, je vais à la pharmacie, j'achète des granules, je ne sais plus comment ça s'appelle le machin, là aussi l'ocinum, voilà. Là. Bon. Par des voies qui tiennent peut-être de l'effet placebo ou pas, mon rhume passe. Voilà, donc... Donc quand on a un petit bobo à l'âme, une légère frustration, un petit coup de déprime, on va au rayon développement personnel de la FNAC et puis on achète des granules et ça va très bien. Mais ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'avoir un vrai pépin de santé. J'ai de la chance, hein, j'ai plutôt une bonne santé. Je ne suis pas allé demander des granules à la pharmacie. Hein. J'ai couru aux urgences et j'ai demandé des médecines plus fortes. Bon, c'est la même chose pour les pépins existentiels. Le développement personnel, c'est très bien pour les petits bobos. Quand la vraie catastrophe frappe, il faut des médecines plus fortes. Et donc, il y en a un certain nombre, le stoïcisme, le nietzschisme. Le christianisme en est une. Alors, après, par définition, je pense que c'est la meilleure. Sinon, je ne serais pas chrétien. Vous voyez, c'est un truc... Souvent, les gens ils disent « Ah, mais quand même, dire que tu es chrétien, c'est dogmatique. » Mais non, si vous rencontrez un marxiste, quelqu'un dans une soirée qui vous dit « Bah, moi, je suis marxiste », vous postulez que c'est ce qu'il a trouvé de mieux. S'il vous disait « Vous savez, moi, le marxisme, je trouve ça nul, puis en plus, ça me pourrit la vie. » Mais alors, vraiment, je suis marxiste. Hein. Vous direz, bah, lui, ça ne va pas. Quoi. Donc, le fait même que je me dise chrétien, ça sous-entend que c'est effectivement ce que j'ai trouvé de mieux, notamment pour essayer de me dépatouiller des coups durs de l'existence. Mais ça, évidemment, je suis tout à fait conscient. Enfin, c'est mon métier, qu'il y a d'autres méthodes sur le marché. Ça suffirait à mon bonheur. Si des collègues ou des étudiants athées lisent ce bouquin, ça suffirait à mon bonheur que ça les convainque que le christianisme est une proposition assez performante parmi d'autres, on va dire. Ça serait déjà pas mal. On était à l'espérance. Alors l'espérance, je disais ça, je veux surtout pas confisquer l'espérance au profit des seuls chrétiens, hein, mais il y a une façon chrétienne d'espérer. Alors c'est effectivement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, croire... parce qu'on en a eu un exemple avec la résurrection de Jésus, que les forces de la mort et du néant
même lorsqu'elles semblent avoir le dernier mot, ne l'auront pas nécessairement dans nos vies et qu'on peut sortir de ça. Et vous voyez, et là, c'est un bon exemple de ce que je vous disais tout à l'heure sur la puissance de la foi. C'est-à-dire, l'espérance, ce n'est pas de la futurologie ou de la prescience. Hein. La prescience, quand je dis je vais prévoir ce qui se passe, j'essaie de... Enfin, à la limite, plus ma prédiction est solide... plus je m'éloigne de l'espérance. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire ? Tout à l'heure, Jean-Michel m'a invité à manger une crêpe après.
Faut pas le dire.
Et donc, je ne vais pas tout dire. Je ne dis pas j'espère que je vais passer un bon moment avec Jean-Michel. Je dis je prévois que je vais passer un moment avec Jean-Michel. Ce n'est pas une espérance. C'est, parce qu'il est sympa, on s'entend bien, etc. Donc, ça va être chouette. Donc, ce n'est pas de l'espérance, ça. L'espérance, c'est quand tout paraît bouché, croire que des possibles peuvent se dessiner. Et ce n'est pas parce
que. Dans le présent.
Dans le présent. Et alors,
c'est ça qui me semble important.
Deux choses. Et
le salut, voilà. Il est dans le présent. Et tu insistes beaucoup sur cette dimension-là.
Voilà. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'il va y avoir du meilleur qu'on espère que ça va arriver, c'est parce qu'on espère que des possibles vont se dessiner et qu'on finit par les voir s'ouvrir. Quoi. C'est parce qu'on croit que des possibles, donc c'est la foi que des possibles vont se dessiner, qu'on finit par les voir s'ouvrir. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et après, alors oui, là j'insiste sur le présent. Donc c'est un livre sur la résurrection. Donc j'ai collé un S au titre parce que, bon, comme vous l'avez compris là depuis qu'on en parle, ça parle non pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas important. Et le christianisme, ça reste quand même fondamentalement, comme on dit, une eschatologie. Hein, c'est l'espérance de la vie future, etc. Qui nous est promise. Mais je pense que cette espérance, elle commence dès à présent. Et alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Pour moi, le christianisme, c'est aussi une puissance d'amélioration de la vie présente. Moi, je ne renvoie pas tout mon espoir à une potentielle vie après la mort, même si j'y crois. Si je suis chrétien, c'est parce que je suis convaincu que ça m'aide à bonifier mon existence présente.
Tu as une phrase, page 270, « La vie éternelle, c'est une qualité d'existence dont nous faisons l'expérience. »
D'accord, oui. Je reviens là-dessus. Ouais,
c'est le présent, comme dans l'espérance.
Pour vous faire sentir, mais je reviens sur le point précédent, vous voyez, je me disais l'autre jour, j'ai 55 ans, donc selon les statistiques, il me reste à peu près 25 ans à vivre, donc on est dans 25 ans, je suis sur mon lit d'agonie. Voilà. Lui, il est increvable, n'est-ce pas? Essayez de deviner quel âge il a. C'est très... je suis un peu plus jeune que Jean-Michel Vienne aujourd'hui. Sur mon lit d'agonie, il me reste un quart d'heure à vivre. Et là, soudain, révélation. Dieu n'existe pas. Le Christ n'est pas ressuscité. Je me suis planté complètement. Je crois que je dirais que ce n'est pas grave. J'ai rien perdu. Si en plus Dieu existe, le Christ est ressuscité, il y a la vie éternelle après, alors là c'est jackpot, c'est le pari de Pascal, hein, c'est encore mieux. Mais je pense que j'aurais rien perdu, je pense même que j'aurais gagné en fait. C'est-à-dire j'aurais mieux vécu en ayant la foi que sans ça. Voilà. Donc puissance d'amélioration de la vie présente. Et alors oui, cette phrase, la vie éternelle est déjà commencée, bon ça c'est mon côté un peu... Je sais pas. Il y a peut-être une toute petite pointe de mysticisme, parce que je ne suis pas très branché mystique, mais dans ce livre, c'est là-dessus. Donc c'est une phrase qu'on dit à la messe, parfois, la vie éternelle est déjà commencée dans une des préfaces, et ça m'a trotté dans la tête. Alors les étudiants, c'est quand on lit Spinoza, ça... Ouais, bon. Voilà. Il y a ces expériences de résurrection, de relèvement, de réveil. Alors quand ça se passe bien... C'est un des autres principes, d'accord, Jésus vivant comme vous et moi, mort, ressuscité, bon, c'est pas très clair quoi, mais manifestement, il accède à une forme de survie, enfin pas au sens de survivre, mais de supervie, quoi, de vie supérieure. Et donc, quand ça se passe bien, une résurrection, y compris dans cette vie, ça permet d'accéder à un état existentiel préférable à celui dont on est parti. Alors, ça se passe pas toujours bien, hein, dans les exemples qui sont donnés, la personne qui témoigne de sa dépression, elle dit... ma résurrection a été incomplète, j'en suis sorti, mais fragilisé. Voilà, donc, pas de jugement, hein, c'est déjà beau qu'elle s'en soit sortie. Dans les crises de couple, il y a une dame qui dit un truc qui m'a beaucoup touché. Hein, elle s'est faite plaquer par son mari, ça l'a amené au bord du suicide. Puis elle a réussi à à reconstruire son couple et elle dit on s'aime encore mieux qu'avant la crise. Alors ça, c'est une résurrection complète. Mais bon. Et donc, dans ces expériences de résurrection, quand ça se passe bien, ce qui n'est pas toujours le cas, on accède à une forme de vie supérieure. Alors, on reparle un peu d'eschatologie, la vie éternelle. Bon, qu'est-ce que ça sera la vie éternelle? Moi, j'en sais rien. Je constate simplement qu'il arrive que dans cette vie... Enfin, je suis sûr que quand j'en parle aux étudiants en cours, enfin, pas dans les mêmes termes, mais ils comprennent très bien, nous accédions fugacement à des états d'intensité d'existence inhabituels. Voilà, alors je vois trois types d'expériences, quatre en fait. Dans le livre, j'en ai parlé de trois, mais j'ai oublié la quatrième. Donc je vais en parler. Il y a ce qu'on peut appeler les instants d'éternité. Vous savez, ces moments où on a l'impression que le temps s'arrête et où on... Parce que tout est parfait. On fait parfaitement ce qu'on a à naître. Il n'y a rien à ôter, rien à ajouter. Vous voyez de quoi je parle? Ouais, je pense que ça arrivait à tout le monde, ça. Donc là, j'y vois une forme de pressentiment de ce que pourrait être la vie accordée aux élus après la mort. Il y a une deuxième expérience, c'est les expériences d'unification parfaite de l'esprit et du corps. Vous savez, si vous lisez le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, c'est de la science-fiction. Hein, c'est Saint Paul qui parle des corps glorieux, donc ces corps mystérieux dont on sera doté à la résurrection des corps. Et donc, c'est des super corps un peu dégagés de la finitude des empêtrements et des complications que nous vaut notre condition incarnée actuelle. Et il y a quand même des moments dans la vie, alors évidemment, ça marche mieux quand on est jeune et en bonne santé, où on fait des expériences d'unité du corps et de l'esprit. C'est pas de la grande philo, mais quand on se décrit, on voit bien qu'on est composé de deux principes coordonnés, mais qui souvent se dissocient ou vont mal ensemble, le corps et l'esprit. D'accord. Là, moi, je suis pas parfaitement unifié, vous voyez, parce que je suis en train de faire usage de mon esprit. Il y a mon corps aussi, vous êtes un bon paquet avec le regard posé sur moi. Et il y a une petite question dans ma tête, c'est est-ce que ton corps est bien placé? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Une mèche de cheveux? Enfin, je ne sais pas quoi, un truc de travers. Hein. Voilà. Donc, je ne suis pas parfaitement unifié. Votre regard sur moi me dissocie un peu. Quoi. Mais vous êtes très gentil. Hein, ça complique un peu. Et c'est souvent dans la vie que c'est comme ça. Mais il y a des expériences exceptionnelles d'unité du corps et de l'esprit. Alors... je sais pas, moi, j'éprouve ça en faisant du sport, des fois, par exemple. Quand on fait du sport d'endurance et que ça se passe bien, il y a un moment où corps et esprit s'unifient, où on est pleinement un, où on coïncide pleinement avec soi-même. Donc, expérience...
Deuxième heure du marathon.
Quand ça se passe bien. Donc ça, c'est deuxième type d'expérience, unité du corps et de l'esprit. Troisième type d'expérience, les résurrections que j'ai décrites dans ce livre. Donc, quand à partir d'une situation d'existence dégradée, on accède à une situation d'existence supérieure. Et puis, ça, je m'en suis tenu à ça dans la conclusion. Donc, c'est les trois modèles que j'ai convoqués pour essayer de voir à peu près ce que ça pourrait être qu'une vie parfaite comme celle qui est promise aux élus après la mort. Mais j'en ai oublié un quatrième, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte récemment. C'est que je suis fils de mon époque, hein, donc je suis très individualiste. J'ai pensé à ça en regardant le tableau du Tintoret au Palais des Doges de Venise, il y a un tableau qui représente le paradis. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le plus grand tableau sur toile du monde. C'est colossal. Et donc, il y a, je crois, plus de 750 personnages en train d'exulter autour de Jésus placé au centre. Et donc, ce que j'ai oublié dans mon livre, c'est la dimension collective.
La Beaujoire.
Et alors, j'y ai pensé, en fait, un jour au foot. Oui. J'aime bien aller au foot à la Beaujoire. Et alors, à la Beaujoire, spécialement cette année, j'espère que vous avez suivi, il y a eu des occasions d'exultation collective de premier ordre. Donc, j'ai malheureusement, dans le livre, en essayant de décrire un petit peu ce que pouvait être la vie éternelle déjà commencée, oublié cette dimension collective du processus. Oui.
On avait prévu de parler aussi des pressions. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette partie parce qu'il y a toute une relecture de la dépression avec les psaumes et une mise en parallèle de l'existence dépressive et du texte des psaumes, mais je pense qu'il est fort avancé. Tu accepterais de ne pas en parler ou tu souhaites en dire un mot?
Non. En deux mots.
On va laisser la parole à. Vous avez été patient jusqu'ici. Vous êtes relevé, ressuscité. Prenez la parole.
J'aimerais revient une question, mais pour le plaisir.
Allez-y, je vais, comme c'est enregistré, je vous laisse.
D'abord, je voudrais remercier Denis Moreau pour ce livre. Parce que il nous invite à relire les textes eux-mêmes. Je m'en suis aperçu en lisant qu'on ne revenait pas au texte à l'origine de la Genèse ou même des citations de philosophes. On baigne un petit peu dans notre foi, mais en l'approfondissant avec les autres. Et donc, merci pour ça. Je me posais une question sur la faiblesse qui est relevée dans la citation de Descartes à la fin du livre. Il reconnaît lui-même, tout en n'étant pas catholique d'aujourd'hui, la faiblesse de la nature humaine. Mais d'un autre côté, je me suis fait la remarque, je me dis, on n'imagine pas notre force non plus. Quand un événement, je côtoyais une personne qui est handicapée, il a perdu les deux jambes à la suite d'un accident. Et à l'occasion d'un repas, il était très choqué parce que quelqu'un lui disait « Si j'avais un accident de voiture, je préférerais mourir qu'être handicapé. » Et lui, qui n'était pas catholique du tout, il m'a dit « Ça m'a choqué. » Ça m'a choqué. Il était accroché à la vie. Il m'a dit « Je pensais la même chose peut-être avant. » Mais bon, voilà. Et donc, je me dis, en nous-mêmes, on a une force peut-être qu'on n'imagine pas.
Oui. Alors, tout à fait d'accord. Moi, cette force-là, je l'appelle Dieu, mais on doit pouvoir l'appeler autrement. On peut l'appeler vouloir vivre, tonos, enfin, il y a d'autres propositions. Et je suis d'accord avec vous. Moi, on apprend vraiment beaucoup en fréquentant. On prend de belles leçons de vie souvent en fréquentant les personnes handicapées. C'est quand même assez impressionnant de capacité de relèvement et de joie de vivre là où. Qui permettent de relativiser un certain nombre de. Les problèmes qu'on a lorsqu'on a de la chance de ne pas l'être handicapé. Alors je reviens sur la phrase de Descartes. Donc les dernières lignes du livre, ce sont les dernières phrases du texte de Descartes, s'appellent les méditations métaphysiques. Mais il faut avouer que la vie de l'homme est sujette à se tromper fort souvent dans les choses particulières. Et enfin, il faut reconnaître l'infirmité et la faiblesse de notre nature. Alors j'ai mis ça, bon, parce que Descartes est avec Spinoza mon philosophe préféré. Donc ça. Et puis, en général, les catholiques ne l'aiment pas beaucoup, Descartes, donc ça m'a fait plaisir de les agacer un petit peu en terminant par là. Et j'ai mis ça aussi, parce que je ne sais pas si vous avez en tête, les étudiants, vous avez ça, on a fait ensemble les méditations métaphysiques de Descartes, c'est la chevauchée fantastique. Il terrasse le sceptique, il prouve l'existence de Dieu, enfin, ça a un côté... chevauché conceptuel qui est assez extraordinaire. Et puis il y a cette espèce, ces trois lignes tout à fait inattendues à la fin où il dit oui, bah finalement on n'est pas si fort que ça, quoi. Et la vie c'est dur. Alors il y a des gens qui disent qu'il a ajouté ces lignes là juste pour faire plaisir aux théologiens de son époque qui étaient pour qui le péché originel ça avait de l'importance. Je suis pas si sûr que ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il pense. Et j'ai rajouté ça en pensant, vous voyez, c'est un truc dans lequel j'ai un peu donné. Je pense dans mes livres précédents, c'est le côté catho Superman, fort en gueule, sûr de sa foi, persuadé que ça allait le cuirasser contre tous les problèmes de la vie. Bon, bah ça, non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ça, je l'ai appris en vieillissant. J'ai parlé de style, hein, dans le ce que j'ai appris en vieillissant, contrairement à ce que j'ai pensé un temps, c'est que la vie du chrétien n'est pas différente de la vie des autres gens. Peut-être un peu dans quelques points de morale, etc. Mais dans les grandes lignes, et notamment pour les coups durs qui nous tombent dessus, bah, les chrétiens, ils sont comme les autres, soumis au deuil. Ils peuvent comme les autres faire des dépressions. La foi n'est pas la garantie contre la dépression. Ils sont comme les autres dans des situations où ils se retrouvent incapables de pardonner parce que c'est trop dur ce qu'on leur a fait subir, etc. Et donc, voilà, chrétien ou pas, nous partageons une vie commune. Alors, ça va me dire à quoi ça sert d'être chrétien dans ces conditions-là. Bah, c'est une façon de recevoir, interpréter cette vie qui nous est commune à tous. Et donc, j'ai parlé de style, hein, dans le livre pour ça, en reprenant une analyse d'André Malraux. Il définit le style, c'est assez beau comme expression, comme une déformation cohérente. Vous savez,
Qu'est-ce que c'est le style d'un peintre? Il saisit de la réalité, puis il la déforme d'une façon bien particulière, et puis on reconnaît le peintre. Le Gréco allonge les visages, Cézanne fait vibrer les objets sur un fond, Seurat rend les choses punctiformes. Donc, on voit bien, c'est ça un style, c'est une déformation cohérente, et le christianisme, c'est un style de vie. C'est bien la même vie, tout comme le compotier, c'est le même pour Cézanne, Chardin ou Seurat, mais le christianisme un petit peu, je ne sais pas si je voulais prendre une image, comme une brume de chaleur qui rectifie la réalité sans la rendre méconnaissable, ça change un petit peu les coordonnées de l'existence. Un petit peu, mais c'est déjà bien. Je dirais bien que si on considère que le cœur du christianisme, c'est la résurrection et que c'est à partir de ça qu'un regard chrétien sur le monde interprète les phénomènes du monde, le christianisme, c'est une sorte de stylisation résurrectionnelle du grand tableau de la vie. Quoi. Voilà, si je peux risquer ce genre d'expression.
Ils défilent plus loin les uns que les autres. Pardon.
Je resalue à nouveau mon ancien professeur de philosophie. J'ai une question, enfin, je ne vais pas la formuler très clairement, mais c'est vrai que quand j'étais un petit peu sur la partie théorique, elle est complète, absolument, il n'y a rien à dire, vous avez étudié tous les aspects, mais je voulais vous demander quand même, vous insistez sur la corporéité. Alors c'est vrai que c'est une résonance un petit peu avec notre corps qui quelquefois n'est pas toujours sympathique. Donc les théologiens en général parlent plutôt de l'identité, du moi qui survit par l'identité, où il y a la notion de corporéité. Alors, est-ce que c'est la difficulté, n'est pas de traduire l'expression biblique, là, soma pneumaticon, parce que quelle nuance voyez-vous entre les deux, entre le corps?
Alors, d'abord, je voudrais un truc. Évidemment, le rapport qu'on a à la corporéité, ils dépendent beaucoup de l'état de santé dans lequel on se trouve. Ça, j'ai compris ça il y a quelques années. Je ne sais pas si vous voyez qui c'était, Jean Mercier, c'était un journaliste à La Vie avec qui j'étais ami. Il a eu un cancer de l'estomac, il était malade, il a énormément souffert. Et j'avais écrit un texte sur le paradis qui évoquait un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, le paradis comme des expériences de super corps, etc. Et il m'avait écrit un mot, enfin il était charmant cet homme, mais en me disant... Je déteste ton paradis de bobo survitaminé. Pour moi, le paradis, ça sera le repos. Voilà. Et donc, pour lui, le paradis, c'est juste la cessation de la souffrance et l'effacement, manifestement, d'une certaine dimension corporelle qui dans sa vie, était devenue extrêmement compliquée. Quoi. Donc, ne pas oublier ça. Hein. Après, alors, il se trouve que... Enfin, là, je précise ça peut-être pour les gens parmi nous qui ne sont pas familiers du christianisme. L'idée chrétienne de résurrection ou de vie éternelle, ça n'est pas la survie du saint à la façon de ce qu'on peut trouver chez Platon, Socrate, etc., de la simple dimension spirituelle de nos êtres. Le dogme chrétien, c'est qu'il y a résurrection de la chair ou des corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, j'en sais trop rien. Il y a ce fameux chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, là, mais qui n'est pas vraiment limpide. Mais en revanche, ça me paraît une thèse philosophiquement intéressante. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez parlé de continuité de l'identité personnelle. Alors, on entend que vous avez fait un petit peu de philo, mais ça veut dire en bon français que s'il y a continuité de l'identité personnelle, ce qu'il y a après la mort, ça peut encore dire « je » ou « moi » au même sens que je le disais avant. Bon. Donc, je peux toujours dire « je ». Par exemple, vous voyez, si je me réincarne demain, je meurs et je me réincarne en grenouille, je ne peux plus dire je. C'est autre chose que moi. Donc il n'y a plus continuité de l'identité personnelle. Moi, quand on me dit à la façon des Grecs, Socrate, Platon, ou à la façon de beaucoup de gens aujourd'hui, ce qui survit après la mort, c'est juste ton esprit, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr que ça sera moi ? Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas un pur esprit. Hein. Ça, c'est très clair. Une bonne partie de ma relation au monde, agréable ou désagréable, se fait par l'intermédiaire de mon corps. Et donc, j'ai l'impression que la dimension corporelle est vraiment une constituante fondamentale de mon identité. Et donc, alors quand je dis ça, en général, ça fait sursauter les gens, mais la position chrétienne de l'idée d'une résurrection de la chair, c'est-à-dire d'une dimension corporelle dans la vie après la mort, me paraît philosophiquement plus logique et plus défendable, si on veut qu'il y ait continuité de l'identité, que la position des gens qui disent c'est le seul esprit qui survit. Et donc là, sur ce point-là, dont je sais qu'il est... On parlait de la résurrection tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, quand on dit le credo à la messe, qui ont du mal à dire « je crois à la résurrection de la chair », c'est quelque chose qui ne passe pas bien, mais ça me paraît une thèse assez raisonnable, en fait, si jamais il doit y avoir vie après la mort. Et alors, ça permet quand même de rappeler au passage que, donc, si le dogme chrétien, c'est qu'il y a une dimension corporelle dans la vie la plus accomplie possible, ça veut dire que pour les chrétiens, fondamentalement, le corps est une bonne chose. Et ça, je crois que au cours de son histoire, le christianisme l'a bien oublié, ça. Dans la période dont je suis supposé être spécialiste, le XVIIe siècle, là, c'est une période de mépris du corps chez beaucoup d'auteurs chrétiens qui est assez terrible. Et puis, ça permet de rappeler, si je reviens, alors c'est un des principes que j'ai dégagé, que dans les opérations de résurrection dans lesquelles nous sommes engagés, dans cette vie, il ne faut jamais négliger la dimension corporelle des processus. Voilà. Ne jamais négliger la dimension corporelle des processus, y compris, vous voyez, la personne qui parle de son épisode dépressif, là, en fait, elle a commencé à se relever timidement et tout le jour où elle a, de nouveau, après une longue période de grande négligence, fait un peu attention à son corps, qu'elle avait totalement laissé tomber.
J'ai une petite question. Alors, nous convenons tous que la foi va mal en notre siècle et que voilà, et qu'il faut sauver la foi. Et je pense que c'est ce qui vous a mis peut-être à développer une approche existentielle ou pratique, comme vous l'appelez, c'est-à-dire une approche pragmatique. Et je me demande si adopter une telle approche ne dévaloriserait pas la foi. Parce que, bon, à la page 227, vous définissez le péché originel comme une tendance que nous avons à saboter et démolir ce qu'il y a de bon. Alors, or, le péché originel a un rapport très étroit avec le baptême. Mais la manière dont vous définissez ce péché originel, est-ce que cette conception est toujours compatible avec le baptême? Parce que le baptême nous émancipe, nous permet de nous émanciper de ce péché. Alors que votre définition, comme tendance, demeure toujours et suivie toujours. Et puis, je ne sais pas quelle est finalement votre conception. Vous l'avez bien précisé après, dans la page 245, que vous n'avez pas considéré cette notion de baptême. Bon, j'entends bien, mais quand vous êtes là... J'aimerais bien.
Ok, alors il y a plusieurs questions. D'abord, c'est page 227, c'est pas moi qui parle, c'est Sarah. D'accord. Mais on va dire que je suis assez d'accord avec elle. On va faire comme si c'était moi qui parlais. Voilà, ça. Donc, ensuite, il y a eu deux remarques. La première, définir la foi par son intérêt pratique, pour vous, ça la dévalorise, c'est ça? Voilà. C'est assez.
C'est le fond du livre. C'est quand même le fond du livre.
Oui, oui. Alors, mais ça, j'entends. J'entends. C'est assez. Puisque monsieur est un de mes étudiants, c'est assez michonien comme remarque. Vous voulez. Voilà.
Un collègue de Denis.
Un de mes collègues à l'université avec qui j'aime bien discuter. Donc, il serait assez d'accord avec vous si vous voulez trouver. Après, alors moi, ça j'assume le caractère parfaitement intéressé de ma foi. C'est un truc, quand je parlais avec les étudiants, on fait le pari de Pascal, vous savez, on demande aux libertins de parier sur la vie éternelle parce qu'on lui fait comprendre que c'est son intérêt bien compris. Alors là, tout de suite, les étudiants dans la salle se réécrient. Attends, mais monsieur, une foi intéressée, c'est plus une foi pure, ça j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Nous sommes tous des êtres de désir, nous cherchons la jouissance et nous fuyons le déplaisir. Et c'est pourquoi, dès qu'il est question de religion, ces choses-là, qui sont les structures essentielles du psychisme humain, devraient être mises entre parenthèses. C'est quand même dingue, ça. Donc oui, moi, ma foi est parfaitement intéressée. C'est-à-dire, si je suis à nouveau, si je suis chrétien, c'est parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour essayer d'exercer tant bien que mal le rude métier d'exister, et en particulier parce que ça m'a aidé et ça m'aide dans les moments compliqués de ma vie. Et donc ça, j'assume pleinement. Alors après, en général, quand on poursuit cette discussion, il y a l'objection Marx, Nietzsche qui arrive, c'est oui, mais alors pour toi, la foi est une consolation. Ça, vous l'avez sûrement déjà entendu, ça. Moi, je dis, oui. Mais moi, quand je suis triste, j'ai besoin qu'on me console et je ne vois pas où est le problème. Quand je suis malade, je prends des médicaments. Je ne vois pas où est le problème. Il y a des fois, la vie, c'est dur. Il y a des propositions, enfin, une proposition qui nous est faite, qui s'appelle le christianisme, pour nous aider à nous en sortir. Je ne vois pas pourquoi je ne m'en saisirais pas. Donc, ce côté absolument intéressé... de ma foi, je l'assume, y compris dans sa dimension thérapeutique, on va dire. Je pense dans l'Antiquité, la philosophie, ça se définissait comme thérapie de l'âme. Hein. Je dirais bien que le christianisme, en un sens, s'inscrit dans cette tradition-là, avec cette idée qu'il y a une sorte de super thérapeute hein, qui est meilleur que les autres, qui s'appelle Jésus, qui est venu nous délivrer un message de cet ordre-là. Donc ça, c'est pour la foi. Alors après, il y a le péché originel. Là, c'est tout de suite plus compliqué. Ce n'est pas en rapport immédiat. Bon, le péché originel, alors... là, on sort un peu du sujet du bouquin, mais c'est intéressant comme question. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, pendant 1700... Vous voyez, quelqu'un d'aussi intelligent que Pascal... Il faut bien voir que le christianisme, c'est coriace, hein, c'est solide, parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais en 250 ans, toutes les coordonnées historico-géographico-conceptuelles dans lesquelles ça s'était pensé ont sauté. C'est-à-dire au XVIIe siècle, quelqu'un d'aussi intelligent que Pascal ou Bossuet, donc les gens les plus intelligents du XVIIe siècle, ils sont convaincus, sur la foi de la Genèse, lu au sens littéral, que le monde a été créé en moins 4400, d'accord ? Avec des espèces toutes faites posées dans l'être en une semaine et Adam et Ève à la fin du processus. D'accord, c'est comme ça que... Et puis qu'Adam et Ève, ils sont dans un jardin, on leur interdit de... Enfin, vous connaissez l'histoire, mais il faut bien voir qu'il y a 350 ans, et même il y a encore 300 ou 250 ans, la quasi-totalité des chrétiens pensent que ça, c'est vrai. C'est historique. Quoi. Et donc, là, on arrive... Alors, c'est un peu compliqué à restituer, mais tout ce cadre-là, ça explose assez rapidement entre 1600 et 1750. Quoi. Puis Darwin vient remettre une couche derrière pour parachever le processus. Donc on aurait pu se dire le christianisme, ça va être balayé. Non. En fait, ça a tenu, ça a su muter. Voilà. Cela dit, il reste encore des points délicats, dont cette histoire de péché originel. Hein. Alors il se trouve... des fois avec Jean-Michel on fait des petites réunions de philosophes chrétiens là, pour discuter, on avait eu une séance là, un peu houleuse à ce sujet là il y a quelques années. Il y a encore un certain nombre de théologiens qui veulent maintenir le caractère historique de l'événement, et j'en connais des bons hein, donc c'est... Alors, en disant il n'est pas impossible qu'il y ait eu à un moment donné un premier humain qui ait désobéi, ou il n'y a même pas besoin d'être très intelligent pour faire de grosses bêtises, vous savez, dans la vie. Donc on peut imaginer qu'un être humain assez frustré ait commis une grosse bêtise. Mais après, il y a la question de la transmission héréditaire de cette affaire-là. Bon, moi, j'avoue, je ne comprends pas très bien, mais je suis aux limites de l'orthodoxie. Hein, j'ai quand même tendance à déshistoriciser l'affaire, à faire un peu comme le faisait Paul Ricoeur, à dire... Non, ça n'est pas un récit historique, c'est un mythe. Mais un mythe, c'est quelque chose qui donne à penser. Hein. Et c'est un très grand mythe qui nous apprend des choses très profondes sur la condition humaine. Donc, c'est ce que dit le personnage qui parle dans le bouquin. Là. Ça dit quoi, ce mythe ? Ça dit, vous prenez un joli petit couple, vous les appelez Monsieur Adam, Madame Ève, vous les placez au paradis. Ils ont tout pour être heureux. Tout. Et ils arrivent à faire tourner l'affaire au drame. Voilà. Donc... Pour moi, une des choses que je vois là-dedans, c'est un texte qui nous parle de cette espèce de... Enfin, ne me dites pas que vous ne voyez pas de quoi je parle. De puissance que nous avons à bousiller les belles choses dans nos vies. Et ça, je l'éprouve, ça. Et je crois que le baptême... Alors, non pas comme un... Je n'ai pas une conception magique du christianisme. C'est-à-dire, je ne pense pas que le baptême, c'est abracadabra et hop, t'es changé. Baptême, quand on décide d'être baptisé ou de faire baptiser un enfant, c'est pour l'inscrire dans une dynamique de foi, dynamique dont je pense qu'elle est salutaire parce qu'elle nous permet, vaille que vaille, avec des chutes mais aussi des relèvements, d'échapper à ces tendances mortifères qui travaillent nos vies. Voilà, donc, bon. Vous n'êtes pas obligé d'écrire au Vatican pour me dénoncer, mais c'était, voilà, c'était.
Oui, merci beaucoup pour cet exposé. On est presque ressuscité à vous entendre, tellement vous parlez bien de la résurrection. Mais j'aurais voulu vous demander dans quels termes vous parleriez de la mort de Jésus, puisqu'il y a résurrection, il y a mort. Et dans quels termes vous parlez de ça? Voilà, la mort de Jésus, est-ce que c'est Dieu qui sacrifie son fils? Est-ce que, enfin, vous l'avez un peu ébauché, mais dans quels termes? Parce que, voilà, ça m'intéresserait de savoir ça.
Alors, j'en parle pas dans le livre. Je vais vous faire une réponse, mais c'est une pirouette, parce que je suis pas très... J'ai pas vraiment dit... J'en sais rien, parce que je suis jamais mort. Je suis jamais mort. Ça m'arrivera un jour, mais pas encore. Ouais. Alors, je pense, oui, Jésus est mort. Enfin, ça, c'est la dogmatique chrétienne. Comment je l'explique? Je vois bien ce que c'est. Alors effectivement, la satisfaction là qu'on a évoquée tout à l'heure, ça a l'avantage de répondre à votre question. Je sais pas. Mais vous voyez, de façon générale, je suis pas très fort pour décrypter les pensées du bon Dieu, moi. Je pense. Alors effectivement, puis on peut se demander. Non, mais c'est des vraies questions. Ça. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi en ce lieu-là du monde? Et pas pourquoi aussi, il y a plein de questions. Il y a pourquoi est-ce qu'il l'a pas ressuscité sur le champ? Je crois qu'après, si vous voulez, théologiquement, donc pourquoi Dieu a voulu ça, je sais pas. Sinon, mais oui, je le prends par la fin, parce que ça nous a apporté une nouvelle dont j'estime qu'elle est la meilleure qu'elle nous ait jamais été apportée, c'est-à-dire qu'elle est profondément libératrice pour l'humanité en nous libérant de la peur de la mort et de tout ce que ça implique dans nos vies. Après, qu'est-ce que ça voulait dire que Jésus était mort? Le seul équivalent que je peux vous donner, c'est quand j'ai vu des gens, quand moi-même j'ai vu des gens morts. Donc, on voit ce que c'est qu'un cadavre. Je pense que ça a dû vous arriver aussi. Voilà, il était comme ça. Ça a duré 3 jours. Et puis... Alors après, c'est très mystérieux, on n'en a pas parlé. Dans les évangiles, vous avez deux types de récits d'apparition du Christ ressuscité. Vous avez des récits, on pourrait dire, avec une forme de réalisme physique, où il est immédiatement reconnu. Bon. Puis vous avez des récits, mais qui ne sont pas moins nombreux, où il n'est pas immédiatement reconnu. Le plus célèbre, c'est les pèlerins d'Emmaüs, hein, qui est un récit, j'en parle un peu... assez touchant. Donc je sais pas. Il me semble qu'il y a de bons arguments pour dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Notamment, vous voyez, parce que si vous lisez la fin de l'évangile de Matthieu, hein, déjà l'évangile lui-même dit que les Juifs disent qu'il y a supercherie. Mais quand même, les disciples, si jamais il y a eu supercherie ou coup monté, ils se sont tous fait couper en morceaux pour cette histoire-là derrière. Est-ce qu'on accepte tous de mourir pour un bobard ? Compliqué ça quand même. Donc je pense qu'il y a, ce que je peux vous dire, à mon avis, il y a eu quelque chose. Quoi je sais pas.
On va arrêter à 20h, mais il y a encore au moins 2 questions.
Oui, en fait, c'est parce que c'est pour soulever un peu un paradoxe par rapport à ce que vous dites et pour voir si j'ai bien compris. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que dans les coups précisément très durs, justement, Dieu s'en va de notre cœur, même quand on a la foi. En tout cas, pour mon expérience, pas toujours, bien sûr. Il y a des fois, il est là dans les coups durs et c'est ce dont vous parlez. Et il y a des fois où c'est justement son absence qui est le coup dur. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle le doute? Bon, ça à la rigueur. Mais ces moments, justement, de totale perte du lien. Et donc, ma question, en fait, c'est est-ce que à ce moment-là, c'est vraiment nécessaire la foi intellectuelle. Quand la foi, je dirais, vibrante et du cœur, malheureusement, s'estompe, c'est là qu'il y a vraiment cette nécessité quand même que l'intellect fonctionne et lui se rappelle d'une certaine manière quand le cœur ne se rappelle plus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, alors d'abord, oui, je pense, j'appellerais pas ça le doute, hein, ce que vous décrivez là, j'appellerais ça, c'est plus grave que le doute. Le doute, ça va, enfin, il peut y avoir des formes un peu difficiles, mais j'appellerais ça les nuits de la foi, en fait. Les nuits de la foi, hein, c'est ces expériences que racontent certains mystiques, les mystiques espagnols du XVIe siècle, notamment quand. Thérèse d'Avila ou Mère Teresa, oui, il y a des textes assez frappants. Donc ça fait partie de l'épreuve. Hein. Ça fait partie de l'épreuve. Alors, j'ai été assez frappé par la façon dont vous avez parlé d'absence de relation, ou un truc comme ça.
Oui, c'est-à-dire que quand justement notre foi est vivante, c'est là qu'il y a une relation.
Oui.
Et le coup dur peut être précisément cette perte.
Tout à fait. Oui. Alors, faut quand même pas oublier que faut pas oublier. Oh, c'est nous qui sommes en cause. Faut pas culpabiliser. C'est la vie qui. Oui. Oui, non, j'entends bien. Ouais. Alors, je pense, je reviens sur la question de l'absence de relation. Faut pas oublier que engueuler Dieu, c'est encore lui parler. Hein. Donc, il y a la relation confiante de prière dans les moments où ça va bien, etc. Mais il y a aussi, dans les moments où ça va pas, voire blasphémer. Blasphémer, c'est encore parler à Dieu. Hein. Le blasphème est une forme de prière. Donc il y a aussi la relation négative qui est une autre forme que la disparition. Et après, alors, vous voyez, pour la question du... comment vous avez présenté ça, le cœur et l'intellect, ça, je pense, ça dépend vraiment... Et je ne veux pas dire que... C'est un principe très important. Il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Donc il y a beaucoup de fois différentes. Il y a des gens qui vivent ça sur un mode beaucoup plus sentimental... et d'autres beaucoup plus intellectuels. Alors, vous voyez, ça m'amuse parce que vous parlez du sentiment de la présence de Dieu. Moi, je ne l'ai jamais senti. Jamais. Je me suis rassuré en lisant le dernier livre du pape François qui dit que lui non plus. Alors, ça m'a un peu décomplexé maintenant. Ou alors, c'est comme, vous savez, il y a ce texte d'Edgar Poe qui s'appelle « La lettre volée » où tout le monde cherche une lettre et à les poser sur une table... tellement en évidence que les gens ne pensent pas à la chercher là et vont la chercher ailleurs. Alors peut-être que Dieu est présent dans ma vie et que j'arrive pas à le sentir, mais je n'ai jamais rien senti, moi. Donc j'ai une foi assez intellectuelle. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, c'est que c'est un peu sec. Ses inconvénients, c'est que c'est un peu sec, quoi. Ses avantages, c'est que c'est sans doute un peu moins fluctuant que le sentiment. Mais après, je connais des gens qui me disent vivre des très belles expériences de présence de Dieu dans leur vie. Moi, je suis très admiratif, je les envie même. Pourquoi pas. Je me sens pas d'être normatif, si vous voulez dire ça doit être ceci ou ça doit être cela. Et après, dans les moments de crise dont j'ai parlé, vous voyez, quand ça va vraiment pas bien, on se raccroche à ce qu'on a. Oui, mais il y a des métaphysiques implicites. Hein. Je parle de structure métaphysique et pas de métaphysique. Si métaphysique, c'est une interprétation du monde au nom de grands principes, nous avons tous une métaphysique, y compris les non-métaphysiciens. Simplement, elle est plus ou moins consciente d'elle-même, etc. Donc, chez des gens, elle sera un peu spontanée, de l'ordre du sentiment. Chez d'autres, elle sera plus intellectualisée.
Une dernière question. Oui, j'ai été frappé de la cohérence qui existe entre ce livre et... le précédent, comment peut-on être catholique? Il me semble qu'on a un peu le même type de raisonnement, un raisonnement par les effets, par les bénéfices. Dans comment peut-on être catholique, tu soutiens la thèse selon laquelle être catholique, c'est un mode de vie raisonnable qui permet d'accéder à la vie bonne. Et là, dans ce livre, tu décris comment le christianisme, catholicisme en particulier, peut-être un kit de survie dans les difficultés. Alors, est-ce que tu assumes cette dimension apologétique de tes ouvrages ?
Alors oui, on peut appeler ça de l'apologétique, mais ça fait partie des gros mots que plus personne ne comprend, donc on peut coller une autre étiquette. En fait, mon idée, c'est assez modeste, hein. C'est surtout pas de convertir les gens. On n'a jamais converti personne avec des arguments, donc c'est pas moi qui vais commencer. Mon idée, c'est un petit peu plus sur la défensive, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est voilà, que ça va pas très fort pour le christianisme. Je pense que... il y a quand même beaucoup de gens qui, de bonne foi, hein, qui sont des gens tout à fait sympathiques, qui ne comprennent plus comment et pourquoi il est possible d'être chrétien, parce que ça paraît totalement délirant comme vision du monde. Et un peu, c'est quand même une belle chose qui s'est invitée dans ma vie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, c'est mes parents qui m'ont éduqué à ça. Mais ça se fait, vous voyez, quand on a une belle chose qui s'invite dans sa vie, on a envie d'en parler. Enfin, vous faites tous cette expérience-là. Quand vous avez vu un beau film, on a envie d'en parler. Moi j'aime bien le rock'n'roll, quand je vais à un bon concert, j'ai envie d'en parler, à la musique, ouais, ça fait cet effet-là. Donc là y a, pour moi, c'est une très belle chose qui s'est invitée dans ma vie. Et donc oui, alors si apologétique, ça veut dire défense positive, on peut dire que ce que je fais, c'est de l'apologétique. Voilà. Et effectivement, je sais pas, j'ai pas de plan de travail préétabli, donc quand j'ai commencé à écrire ces trucs-là il y a 15 ans, j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire 10 ans plus tard, mais s'il y a une espèce de cohérence qui vaille que vaille peut se dessiner dans ce parcours-là, tant mieux. Et effectivement, elle est quand même, je pense, centrée sur la question de la vie bonne, quoi, qu'une question sur laquelle c'est la philosophie qui a attiré mon attention d'abord, la lecture des philosophies antiques notamment, mais plus ça va, plus je suis quand même convaincu que le christianisme est une forme de réponse à cette interrogation, qu'on se la pose dans les moments, on va dire, faciles ou glorieux de notre existence. C'est important de vivre heureux quand ça va bien, ou qu'on se la pose, et c'est ce que peut-être a rajouté ce livre-là, dans les moments tragiques. Voilà.
On va en rester là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ceux qui souhaiteraient acheter le livre, il est à la vente à l'extérieur. Il peut être dédicacé, si vous voulez, en plus de l'argent du beurre, le sourire du crémier. Il y a un tronc qui pourrait recevoir vos aides pour que le passage vive. En sortant, vous pouvez y mettre quelques sous. Et on espère que vous viendrez nombreux à la prochaine séance, à la rentrée, de Un livre, un débat. Merci à vous de cette excellente soirée.
Merci, bonne soirée, au revoir. Merci.